Vous écoutez, on lit pour vous.
Les bienfaits insoupçonnés du chant sous la douche. Un texte de La Presse Extra Santé, paru le 5 février 2024 dans La Presse. L'eau coule à une température idéale. L'acoustique est parfaite. Votre voix s'élève harmonieusement et vous poussez des notes d'une justesse étonnante. Mais surtout, vous savourez l'instant présent et laissez le bonheur vous habiter. Qu'est-ce qui explique cette joie que vous ressentez à chanter sous la douche? Ça réduit le stress. Chanter contribue à abaisser le niveau de cortisol, soit l'hormone du stress, dans votre organisme, et ce, peu importe votre talent vocal. Ce bienfait est encore plus prononcé dans les contextes détendus et sans pression. L'environnement intime et l'absence de public, mis à part les autres personnes qui partagent votre toit, font de la douche la scène idéale pour une prestation musico-thérapeutique. Ça améliore l'humeur. Le chant stimule aussi la production d'endorphines et d'ocytocine, deux des hormones dites du bonheur. Les endorphines procurent une agréable sensation d'euphorie, comme lorsque vous faites une activité physique ou que vous éclatez de rire. L'ocytocine, quant à elle, inspire le mieux-être, la sécurité et l'amour ressenti en présence de personnes de confiance et lors de contacts physiques. Ça éveille l'esprit. Pour les besoins d'une étude réalisée en Angleterre, un petit groupe de 10 volontaires a passé une semaine à se doucher en silence, suivi d'une semaine en chantant. L'humeur globale du groupe s'est améliorée de 55 % au terme de la deuxième semaine, mais plus précisément, la moyenne a bondi de 155 % concernant l'affirmation « Je me sens mentalement alerte ». Chanter aiderait en effet à mettre de l'ordre dans les idées. Ça développe les poumons. Vous devez inspirer profondément et au moment clé d'un grand air pour l'interpréter sans manquer de souffle. Cette prise de conscience de la respiration augmente l'apport en oxygène partout dans le corps et, avec une pratique régulière, contribue même à accroître l'amplitude respiratoire. Ça résonne vraiment bien. Les propriétés acoustiques de nombreuses salles de bain en font le lieu de concert idéal pour une seule personne. Le son rebondit naturellement sur les surfaces dures, dont les tuiles de céramique. Dans un espace à l'étroit, ce phénomène produit de la réverbération, soit l'impression qu'un son dure longtemps. La réverbération adoucit également la transition entre les notes pour obtenir un résultat plus harmonieux, comme le ferait une console de mixage. Des musiciens dans la salle de bain. Cette pièce d'intimité offre un son d'une si grande qualité que plusieurs artistes s'en servent au moment venu de leur démarche créative. En voici quelques exemples. John Anderson, chanteur du groupe britannique Yes, a déjà installé des tuiles de céramique dans son studio pour imiter l'écho d'une salle de bain. C'est en pratiquant dans sa salle de bain, lumière éteinte, que le guitariste Paul Simon, du duo Simon & Garfunkel, a trouvé l'inspiration pour composer le succès « The Sound of Silence », dont les paroles « Hello darkness, my old friend »,« Bonjour obscurité, ma vieille amie ». Jim Morrison, du groupe The Doors, a enregistré les partitions vocales de l'album L.A. Woman dans une salle de bain attenante au studio. La voisine d'un jeune John Lennon rapporte que les Beatles jouaient parfois dans la salle de bain au mur mitoyen en raison de la qualité de l'acoustique et que les membres du célèbre groupe réveillaient même son nouveau-né. C'était les bienfaits insoupçonnés du chant sous la douche. Un texte de La Presse Extra Santé paru le 5 février 2024 dans La Presse.
soixante-dix pays s'engagent à construire différemment pour freiner le réchauffement climatique. Un texte d'Isabelle Malsan de l'agence France Presse paru le 9 mars 2024 dans Le Devoir. Privilégier les rénovations aux constructions neuves, réemployer les matériaux. Au moins 70 pays se sont engagés, le vendredi 8 mars 2024 à Paris, à revoir et adapter leur façon de construire des bâtiments afin de freiner le réchauffement climatique tout en protégeant le bâti des canicules et aléas météo. Les ministres de l'Environnement ou de la Construction des pays signataires, dont le Canada, les États-Unis, la Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite, mais pas la Chine, ont adopté une déclaration de Chaillot, du nom du palais à Paris dans laquelle elle a été finalisée lors du premier forum mondial bâtiment et climat organisé par l'Agence des Nations Unies pour l'Environnement et le gouvernement français. La déclaration reste ouverte à davantage de soutien et a vertu à rassembler davantage de pays dans les semaines qui viennent, a souligné le ministère français de la Transition écologique, qui espère engranger de nouvelles signatures d'ici le prochain forum urbain mondial du Caire et de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, en novembre 2023. Normes, financement immobilier, matériaux, énergie. L'objet est de décarboner l'industrie du bâtiment, fortement émettrice de gaz à effet de serre, responsable de l'élévation des températures mondiales. Mais aussi de rendre le bâti plus résilient face aux tempêtes, inondations et canicules qui se multiplient notamment dans les pays du Sud les plus vulnérables. Pour la première fois, tout ce que la planète compte de bâtisseurs, architectes, ingénieurs, bureaux d'études, industriels, des matériaux se sont réunis avec des diplomates et bailleurs de fonds internationaux autour de la question climatique. Régina Gontier, qui préside de l'Union internationale des architectes, UIA, a publiquement affirmé l'engagement de la profession adopté l'été dernier de prioriser la réhabilitation du bâti existant de manière vertueuse plutôt que de construire des bâtiments neufs. Un petit défi dans un secteur dominé parfois par les égos des créateurs. Rediriger les flux financiers. Il y a urgence. La construction est un secteur où les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent d'augmenter et qui n'est pas sur la bonne voie pour parvenir à la décarbonation d'ici 2050, indique la déclaration. Ligia Noronha, sous-secrétaire générale de l'ONU, a rappelé que la participation du secteur privé devra atteindre plus de 24 milliards d'euros en 2030 pour arriver au net zéro. Il faut rediriger les flux financiers, ainsi qu'un cadre réglementaire propice, a-t-elle déclaré. Mais 110 pays ne disposent pas de normes obligatoires concernant l'efficacité énergétique. C'est désolé le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol. L'ONU prévoit notamment un doublement des surfaces construites d'ici à 2060 dans le monde, ainsi qu'un quasi-doublement de la consommation de matières premières, dont la majorité serait dévolue à la construction. Actuellement, le secteur est responsable de 21% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de 37% des émissions de CO2 liées à l'énergie. Il représente aussi 34% de la demande énergétique pour chauffer ou climatiser et capte la moitié de la consommation mondiale de matières premières, selon la déclaration. Par ailleurs, 100 milliards de tonnes de déchets de la construction sont générés par les démolitions et rénovations chaque année. La plupart pas réutilisés, et 35% d'entre eux terminent dans des zones d'enfouissement. d'ici 2060, le doublement des surfaces bâties devrait ajouter plus de 230 milliards de mètres carrés bâtis. En Afrique, elle pourrait tripler, et même quadrupler, dans les pays à urbanisation rapide, indique le document. En 2021, si 40 % des pays, 79 sur 196, disposaient d'un code de l'énergie, seulement 26 % disposaient de normes de construction obligatoires, souligne le document. Parmi les engagements pris par les participants, il faudra économiser l'eau et l'énergie, réduire autant que possible les installations de climatisation en privilégiant la circulation d'air à l'intérieur des bâtiments, mais aussi développer la formation de la main-d'œuvre pour réaliser cette tâche titanesque. Le ministre des Villes brésilien, Jader Barbalho Filho, a souligné que les solutions applicables au Sud sont différentes de celles pour le Nord, en relevant notamment que son pays avait besoin de 6 millions de logements abordables pour sa population. C'était 70 pays s'engagent à construire différemment pour freiner le réchauffement climatique, un texte d'Isabelle Malsan de l'agence France Presse, paru le 9 mars 2024 dans Le Devoir.
La signaleuse qui illumine nos matins. Un texte de Jean Bourbeau, paru le 26 janvier 2024 dans Urbania. Rencontre avec la courtoisie en cap d'acier. Lorsqu'ils vont trop vite, j'interviens. Ceux qui chialent, je leur envoie des becs. Je crie après personne. Ce dont ils ont besoin, c'est un peu d'amour. Au croisement des rues d'Épin et Saint-Urbain, un autre chantier de construction perturbe la circulation. Mais, parmi la grisaille du matin et le vacarme du chantier, Julie se tient là, pinçant la palette de son casque et inclinant la tête pour chaque passant. La femme, toute de fluo vêtue, se trouve en mission. Répandre la bonne humeur, infuser de la patience et une touche d'amour au matin des citoyens. Et ça marche. Entretien de coin de rue avec une fleur du quotidien. J'offre juste une bonne partance. Même quand on s'est levé du mauvais bord du lit, un petit bonjour, ça change tout, affirme d'emblée la charismatique signaleuse. Vous avez peut-être eu la chance de croiser son sourire sur votre chemin. Depuis le premier jour, où elle a enfilé son casque de protection, il y a maintenant 6 ans, sa courtoisie est devenue sa marque de commerce. Il y en a plusieurs qui disent qu'ils ne voient plus le désagrément des constructions. Juste mon sourire. C'est le fun. Au cœur de la jungle urbaine, sa grande gentillesse a le pouvoir de déstabiliser. Certains me demandent « Qu'est-ce que je fais ?» Parce que je ne peux pas saluer avec la main. Sinon, les gens freinent, explique-t-elle. Je fais donc un petit salut de la tête. Les gens apprécient beaucoup. Ça se voit tout de suite. Preuve que son énergie marque l'imaginaire des quartiers. Hier soir, j'étais sur mon ancien chantier, dans Côte-des-Neiges. Tout le monde dans la rue criait « T'es revenu! T'es revenu! » Elle souligne que les enfants sont excités de recevoir ces salutations, qui comprennent, entre autres, le lever du chapeau et le déroulement du tapis rouge avec le drapeau. Quand les voitures attendent à cause d'un camion, je fais parfois une petite gigue, question de mettre un peu de pep, narre-t-elle avec une énergie débordante. Originaire de l'Ontario, Julie a été cuisinière de métier pendant près de 30 ans, avant de troquer les fourneaux contre un drapeau afin d'améliorer ses conditions financières. Elle affirme avoir toujours été de nature très polie, même jadis, lorsqu'elle était submergée sous le poids des commandes. Pendant notre conversation, plusieurs citoyens la saluent spontanément, avant même qu'elle n'ait l'occasion de le faire, démontrant comment sa bienséance est contagieuse et s'est incrustée dans la routine des voyageurs. Malgré le stress et l'agitation émanant d'inévitables citadins, Julie assure parvenir à les désamorcer facilement. En retour de sa bonté, la signaleuse reçoit souvent des gestes d'affection, tels que des baisers à la volée et des câlins, mais aussi des petits cadeaux comme du café, du jus, bien qu'elle se défende de le faire pour les récompenses. J'ai récemment reçu une magnifique lettre de 3 pages d'une femme pour qui ma présence l'a aidée dans sa lutte contre la dépression. Ça m'a tellement touchée. Quand les boss viennent me voir, ils me disent recevoir beaucoup de coups de fil, jamais pour des plaintes, mais plutôt pour se faire féliciter d'avoir embauché la meilleure signaleuse en ville. Les gars sur le chantier, bien évidemment, la taquinent en imitant son salut caractéristique. Je leur dis qu'ils sont juste jaloux de mes muscles dans le cou. Mais ils sont heureux aussi, surtout quand je reçois des cadeaux et que je leur en donne. Qu'il mouille ou qu'il neige, frette ou chaud, je suis tout le temps de bonne humeur, 45 heures par semaine, sans compter l'overtime et les shifts, dépassant parfois 15 heures, comme celui d'hier. Les bonjours sont toujours là. C'est plus fort que moi, s'esclave-t-elle. Propriétaire d'une grande terre à bois dans la région de la Naudière, où elle bûche et fait les sucres, chaque matin, dès les premières lueurs de l'aube, Julie se lance dans un périple d'1h30 pour se rendre sur son lieu de travail. Après une longue journée, elle entame un autre trajet de 2 heures pour rentrer chez elle, se retrouvant à son tour plongée dans le trafic routier. Il n'y a pas trop de camions ce matin, alors je fais juste saluer et faire attention qu'il n'y ait pas d'accident. Je prends soin de mon monde, assure-t-elle, avant d'adresser ses hommages à une horde de piétons. C'est si peu et tellement en même temps. C'était La signaleuse qui illumine nos matins. Un texte de Jean Bourbeau, paru le 26 janvier 2024 dans Urbania.
Ces billets qui contaminent les intelligences artificielles. Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 7 mars 2024 dans La Presse. Les films de science-fiction dépeignent un monde peuplé de robots destructeurs. Dans l'immédiat, le vrai danger est tout autre. Que l'intelligence artificielle, IA, aggrave les inégalités sociales en intégrant et en amplifiant les erreurs de raisonnement des humains. Voici le 4e volet de notre série sur les biais. Les biais algorithmiques. Leur manifestation. L'IA sert déjà à déterminer le sort de millions de personnes dans des situations cruciales. Qui embaucher? À qui accorder un prêt? Qui risque de récidiver? Or, malgré sa puissance, elle peut commettre des erreurs grossières. Les humains nourrissent et entraînent des machines qui reproduisent leurs biais inconscients, explique Émilie Gagnon-Saint-Pierre, doctorante en psychologie cognitive et sociale à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Les préjugés s'infiltrent dans l'élaboration des algorithmes, puis dans le choix des données, presque toujours incomplètes et teintées par les inégalités du monde réel. Résultat, l'ordinateur a beau être rapide, infatigable et prétendument objectif, il prend, lui aussi, des décisions injustes basées sur des raccourcis. Les erreurs de la reconnaissance faciale qui confond les personnes noires entre elles en témoignent. Au moins 6 Afro-Américains ont été détenus injustement parce qu'un logiciel les avait associés à des criminels filmés par des caméras de surveillance. En 2023, à Détroit, une femme enceinte de 8 mois a été injustement menottée devant ses 2 fillettes terrorisées, puis jetée dans une cellule où elle a croupi 11 heures et ressenti des contractions et de la panique. Il lui a fallu payer une caution de 100 000 $ pour pouvoir en sortir et se rendre à l'hôpital, déshydratée. Leur raison d'être. Parce qu'ils traitent et recoupent à toute vitesse des quantités phénoménales d'informations, les systèmes d'IA améliorent nos performances dans plusieurs domaines, de l'aviation à la radiologie en passant par la génétique, ce qui permet, par exemple, d'augmenter la sécurité des transports ou de diagnostiquer plus facilement des maux rares, complexes ou embryonnaires. L'IA pourrait même servir à repérer les billets, suggèrent 2 juristes québécoises sur le site du Centre d'accès à l'information juridique. Leur idée, analyser l'ensemble des jugements rendus par un juge ou un tribunal et en dégager des tendances. Cela permettrait d'identifier ceux dont les décisions semblent être biaisées par des stéréotypes et des préjugés, pour accroître leur imputabilité, assurer l'égalité devant la loi et augmenter la transparence du processus judiciaire. En 2019, la France a préféré modifier la loi pour fermer cette porte, par crainte que le profilage et la comparaison des juges permettent plutôt aux partis de les influencer en cours. Leurs répercussions. Des aberrations passées démontrent qu'utiliser l'IA pour contrer les biais peut échouer. Aux États-Unis, le système Compass attribuait à tort un risque de récidive 2 fois plus élevé à des accusés noirs qu'à des accusés blancs au profil très similaire. Il a donc aggravé la discrimination systémique qu'il visait originellement à combattre. Un programme du genre a produit le même résultat déplorable en Espagne. Tandis qu'en Pennsylvanie, un logiciel surestimait la probabilité que des familles noires, pourtant très semblables à des familles blanches, mettent leurs enfants en danger. Autre exemple, des systèmes d'analyse de CV, dont l'un créé par Amazon, attribuait automatiquement aux hommes des postes beaucoup plus intéressants qui donne plus de pouvoir et de plus gros salaires, illustre Émilie Gagnon-Saint-Pierre, coéditrice du guide des billets raccourcis. Leur antidote. L'Europe a de l'avance puisque le Parlement européen étudie, depuis l'an dernier, une loi exigeant que les systèmes d'IA soient sûrs, transparents, traçables, non discriminatoires. Utiliser des critères discriminatoires et illégaux, mais ignorer comment la machine prend sa décision court-circuite les recours possibles. Ça nécessitera beaucoup de surveillance, observe Madame Gagnon-Saint-Pierre. Mieux programmer l'IA est donc vital. Pour y parvenir, les spécialistes en données gagneraient à travailler avec des experts en sciences humaines afin de rééquilibrer l'entraînement des systèmes, leur inculquer des connaissances en psychologie, sociologie, philosophie et éthique, leur enseignerait à extirper les biais. Impliquer plus de femmes et de minorités permettrait par ailleurs de refléter plus de points de vue. Les machines ne sont pas infaillibles. Une erreur de jugement appelée « biais d'automatisation » nous fait souvent sous-estimer le risque qu'elle se trompe, puisque nous présumons que les machines ont été programmées spécifiquement pour éviter cela, observe Émilie Gagnon-Saint-Pierre. D'après quelques études, une petite proportion des médecins, 10% ou moins, changent leur diagnostic initial et correct lorsqu'un logiciel leur en propose ensuite un mauvais. Au lieu d'être conçus et perçus comme des preneurs de décision, les systèmes d'IA devraient donc offrir un simple soutien, conseillent les experts en biais. C'était ces billets qui contaminent les intelligences artificielles. Un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 7 mars 2024 dans la presse.
Les nouveaux vaccins contre la COVID sont efficaces à 54 % pour prévenir les symptômes. Un texte de Mike Straub de l'Associated Press paru le 1er février 2024 dans Le Devoir. Les dernières versions des vaccins contre la COVID-19 ont été efficaces à 54 % pour prévenir les infections symptomatiques chez les adultes, selon la première étude américaine évaluant l'efficacité des vaccins. Ces vaccins, disponibles depuis l'année dernière, ont été conçus pour mieux protéger contre les variantes les plus récentes du coronavirus. Dans cette étude, les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis ont examiné 9000 personnes ayant subi un test de dépistage de la COVID-19 dans les pharmacies CVS et Walgreens en vérifiant qui était positif et qui avait reçu un nouveau vaccin ou non. Le chiffre de 54 % est similaire à ce qui a été rapporté dans d'autres pays et il correspond également à ce qui a été constaté par une version antérieure du vaccin, a déclaré Ruth Link Gelles du CDC, l'auteur principal de l'étude. Les études qui seront publiées dans le courant de l'année évalueront l'efficacité du vaccin pour prévenir les symptômes suffisamment graves pour envoyer les patients chez le médecin ou à l'hôpital, a-t-elle ajouté. Les CDC recommandent les nouveaux vaccins pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus, mais la plupart des Américains ne les ont pas encore reçus. Selon les dernières données du CDC, seuls 22 % des adultes américains se sont fait vacciner et 11 % seulement des enfants. La lenteur de l'adoption de ces vaccins a fait que les chercheurs ont mis plus de temps à rassembler suffisamment de données pour évaluer l'efficacité des vaccins, a expliqué Mme Link Gelles. C'était « Les nouveaux vaccins contre la COVID sont efficaces à 54 % pour prévenir les symptômes ». Un texte de Mike Straub de l'Associated Press paru le 1er février 2024 dans Le Devoir.